France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Bah, je trouve que c'est très dur, le monde dans la rue. Quand on est dehors, on est très fatigué. Pas dormir comme on veut, même si on s'allonge, c'est des sommeils légers. Pas qu'on vienne nous faire du mal ou nous voler. Hein.
Pour quelques personnes, il y a vraiment une crise professionnelle, une crise familiale. Le gouffre s'ouvre sous leurs pieds et il y a un moment donné où il faut juste qu'une main les rattrape au moment où ils tombent et les ramène sur la terre ferme.
Nous, ce qu'on constate en fait, c'est que vraiment il y a une vraie dégradation de la santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, mentale. Vivre dans des conditions comme ça, je pense que ça crée de vraies séquelles en fait.
Le tableau brossé par la Fondation pour le logement est sombre. Son dernier rapport égrène les chiffres records. Près de 10 millions de personnes, soit un peu plus de 15% de la population, vivent sous le seuil de pauvreté. Et la France compte au moins 350 000 personnes sans domicile fixe, le double d'il y a 10 ans. Quant aux personnes à la rue, elles sont quelque 30 000. Leur silhouette recroquevillée heurte un peu plus les consciences en cette période hivernale, mais qui se soucie vraiment de leur sort? Même les plans grand froid, activés quand les températures se font vraiment glaciales, ne permettent pas de mettre tout le monde au chaud. Le 115, le numéro d'urgence pour obtenir un hébergement, est saturé. À vrai dire, c'est le cas toute l'année. Un chiffre encore, 944 décès recensés l'an dernier par le collectif Les Morts de la Rue, qui rappelle les conditions de vie extrêmes des personnes sans abri, l'isolement, le manque de soins médicaux adaptés, la violence. Une violence qui vient aussi d'en haut, quand il faut remplir certaines conditions pour obtenir de l'aide, ou quand le mobilier urbain dissuade de s'allonger ou de s'abriter dans l'espace public. Mais il y a aussi des mains tendues, et elles sont indispensables pour sortir de la rue, se soigner, se remettre sur pied, trouver ou retrouver un chez-soi et une place dans la société. De la rue au logement, une chaîne de solidarité, c'est un reportage signé Flore Caron. Bonjour Flore.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes allée à la rencontre de personnes sans abri et de celles et ceux qui cherchent à leur venir en aide.
Oui, je suis allée à Lyon, à Paris, à Alfortville aussi, dans le Val-de-Marne. Et ces personnes qui vivent à la rue justement ou qui ont connu la rue, elles m'ont parlé de leur quotidien, de leur détresse parfois, de leur lassitude, du manque de sommeil, de l'insalubrité. Et je me suis aussi intéressée en effet, comme vous le disiez, à celles et ceux qui leur tendent la main, des bénévoles pour beaucoup, dont le travail est essentiel et parfois même vital. Ce sont par exemple des collectifs qui se battent pour mettre à l'abri en plein hiver de jeunes migrants qui dorment dans un campement de fortune. Ce sont aussi des paroissiens qui ouvrent les portes d'une église qui organise des petits déjeuners, ou encore des associations qui offrent un premier toit après la rue, qui aident les anciens sans domicile à se réinsérer, à se soigner aussi. Car je rappelle qu'un grand nombre de personnes à la rue souffrent de problèmes de santé. Selon l'étude nationale Maraude de 2021, 42% des personnes sans domicile interrogées étaient en mauvaise santé et parmi elles, 45% présentaient des problèmes psychiques.
Notre invité, Florent Guyot, est en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'association Aurore, qui accueille et accompagne des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, avec pour objectif leur insertion sociale et professionnelle. Et vous avez récemment publié « La fabrique des précarités, a-t-on abandonné la fraternité ?», un livre paru chez Flammarion. Je pense que le reportage de Flore Caron devrait vous parler. Nous l'écoutons tout de suite. Première étape à Lyon, dans un campement de jeunes migrants. Ces jeunes vivent sous des tentes en attendant la réponse de la justice qui doit dire s'ils sont ou non mineurs et s'ils peuvent donc être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Sarah, je vis à Lyon et je fais partie du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse depuis quelques années. Alors là, nous sommes dans le quartier du 1er arrondissement, dans un jardin donc qui est le jardin des Chartreux et qui accueille depuis le 19 janvier 2025 environ maintenant plus de 200 jeunes mineurs isolés. Là, on rentre directement dans le lieu de vie des jeunes, donc l'entrée du campement, où il y a à peu près, on va dire, 200 tentes qui sont installées actuellement, avec à disposition une maison qui est ouverte pour eux, qui n'est pas un lieu pour dormir, mais qui était un lieu plutôt pour s'abriter, pour pouvoir charger les téléphones, faire chauffer de l'eau chaude pour se faire des thés, avoir accès à un point d'eau, bon, même s'il y a un point d'eau aussi à l'extérieur. Voilà, on a installé une petite cuisine juste sur le côté là, pour que les jeunes puissent voilà, se faire à manger en fonction des dons alimentaires qu'on peut recevoir.
C'est une petite cuisine qui est donc dehors sous un barnum.
Tout à fait, oui, c'est ça. Là, on est entouré de tentes qui sont, on va dire, pour la plupart mises sur des palettes pour éviter d'être directement sur la terre. Parce qu'il n'y a plus d'herbe là, hein. C'est de la terre, c'est de la boue avec la pluie. Et elles sont au moins toutes protégées aussi par des bâches parce que, en fait, c'est le collectif qui fournit les tentes avec les dons. Et les tentes, en fait, c'est des tentes qui ne sont pas de très très bonne qualité non plus. Donc elles sont relativement vite abîmées. En fait, ce n'est pas des tentes qui sont prévues pour... Hop, là, tu vois passer les rats. Voilà, je change un peu de sujet, mais le campement est infesté, envahi de rats de tous les côtés. Les rats, justement, mangent les tentes, mangent les affaires des gars, mangent leurs chaussures. Ils n'ont pas la possibilité de stocker un peu de nourriture à l'intérieur des tentes parce que bah, sinon ils se font carrément attaquer par les rats quoi, et les souris pendant la nuit. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un calvaire. Et au niveau des conditions sanitaires, malgré les nettoyages réguliers du campement, en fait c'est extrêmement précaire et ce n'est pas des conditions quoi.
Il y a aussi un feu.
Il y a un feu depuis quelque temps. Ça a été compliqué de leur refuser de faire ce feu parce que les conditions météo à partir de fin décembre ont été très très extrêmes avec de la neige, des températures négatives et du coup des conditions de vie très difficiles pour eux, quoi.
Bonjour.
Flore, les journalistes. Oui. Tu as besoin de me voir après? Ouais.
Nous sommes au plat du feu. C'est le feu qui nous permet de nous réchauffer. Parce qu'avec la fraîcheur, vraiment, on n'a pas de conditions, comme je l'ai dit tout le temps. Et au plat du feu, ça nous fait vraiment plaisir de se réchauffer. Moi, c'est Diakité Ahmed. J'ai 16 ans, je viens de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes ici depuis combien de temps?
Depuis le mois d'avril, je suis ici.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand il y a eu la vague de froid il y a quelques semaines?
La vague de froid, vraiment, c'était vraiment pénible. C'était pas du tout facile. Et il y avait un gymnase qui a été ouvert presque pour tout le monde, où chaque soir on partait. Et malheureusement, ce gymnase a été fermé. Donc c'est un peu ça. Sinon, c'était pas du tout facile.
Vous êtes scolarisé?
Oui, je suis scolarisé. Je suis en classe de 3e. La journée, je vais au collège et le soir, je reviens au campement pour dormir.
Vous faites comment pour réviser, pour travailler?
Pour réviser, bon, c'est pas du tout facile. Quand j'ai des devoirs, je reste un peu longtemps au collège pour pouvoir les faire. Et les week-ends, vu que c'est la journée, souvent je cherche un coin plus calme hors du campement, dans un parc pour pouvoir étudier. C'est comme ça que je fais. Je m'adapte un peu aux conditions.
Comment vous la vivez, cette situation?
C'est pas du tout facile parce que personne ne souhaite avoir cette vie-là. Voilà, personne ne souhaite avoir cette vie-là, mais on s'adapte. Et comme on le dit toujours, nous avons toujours le soutien des bénévoles parce qu'ils sont là pour nous remonter le moral. Sinon, les conditions d'ici ne sont pas vraiment favorables. Tout est compliqué. Pour avoir la nourriture, c'est un peu difficile. Bon, Dieu merci, nous avons une tente qui n'est pas aussi confortable, mais on fait avec le peu que nous avons. Et aussi, avec le, vous voyez le temps, la fraîcheur. Là, actuellement, il pleut. C'est très difficile pour nous pour pouvoir circuler, pour pouvoir faire plein de choses.
Madame, mais qu'est-ce qui se passe?
Auprès du feu, il y a aussi Mohamed qui nous rejoint.
Au fait, vous voyez les tentes? Une fois dedans, les tentes là, ça c'est mouillé, il fait froid dedans. Il fait tellement froid. Un être humain ne peut pas dormir ici. Voilà. Même l'autre fois, il y avait le niaise ici, il s'était rempli. C'était blanc ici, il y avait des niaises. On ne peut même pas marcher, on ne peut même pas rentrer, on ne peut même pas ouvrir la tente pour rentrer. Quoi. Vous voyez, c'est difficile. Ouais.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Moi, ça fait 5 mois, celui-là.
Il y a Médecins du Monde qui intervient régulièrement sur le campement. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la santé de ces jeunes?
Donc oui, ils interviennent régulièrement. Ils ont une permanence où les jeunes peuvent aller en fonction des besoins. Et ils interviennent aussi sur le campement très régulièrement. Ils sont très présents. Et nous, ce qu'on constate en fait, c'est que vraiment, il y a une vraie dégradation de la santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, mentale. On a beaucoup de jeunes qui décompensent, beaucoup de jeunes qui ont des problèmes psy. Vivre dans des conditions comme ça, je pense que ça crée de vraies séquelles en fait. C'est assez compliqué de se dire même comment ils vont faire pour se construire après, derrière, en ayant vécu ça. Et il y a de vraies conséquences sur leur santé. Il y a aussi la malnutrition. Il faut savoir qu'ils ne mangent pas tous à leur faim. Hein. Souvent, ils font un repas par jour. Aller dans les restaurants sociaux, ça veut dire aussi prendre les transports en commun sans ticket, donc se faire contrôler. Et donc, certains préfèrent rester ici toute la journée sans bouger. Et ça se ressent aussi sur leur santé, quoi.
Là, on se dirige vers l'église Saint-Polycarpe à une dizaine de minutes du campement. Et c'est ici que dorment certains jeunes depuis la fin du mois de novembre. Ils sont en train de préparer leur matelas.
Moi, c'est Bessia Camara, je viens de la Guinée-Conakry. Depuis qu'on a commencé à dormir, moi j'ai une place parce que je suis tout le temps présent. C'est pourquoi je lui dis que j'ai ma place. Tout le temps, je suis là, je suis à l'heure et je viens, j'ai même mon matelas.
Donc vous dormez tous les soirs ici depuis fin novembre ?
Ah oui. Et moi je dors là, ici. J'envoie mon petit lit, je le mets là-bas et voilà, je me couche.
Pendant que certains jeunes, comme Bessia, s'installent, d'autres font leurs devoirs ou discutent autour d'une boisson chaude. C'est le dimanche 23 novembre, à la sortie de la messe, que ces jeunes ont investi l'église. L'archevêque de Lyon a alors décidé de ne pas demander leur expulsion et de les accueillir sous certaines conditions. Depuis, les paroissiens assurent l'accueil avec les membres du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Parmi eux, Sébastien.
Les jeunes doivent partir à 10h le matin en ayant rangé tous leurs matelas sur les côtés et faire un peu de ménage en partant. Mais en tout cas, ils doivent libérer l'église à 10h. Où là, à nouveau, ils se retrouvent dehors. Donc beaucoup, en fait, gardent un peu le campement comme camp de vie.
Il y a eu, il y a quelques semaines, une vague de froid. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour eux, pour ces jeunes du campement ?
Effectivement, il y a le plan grand froid qui a été déclenché le 30 décembre. C'est-à-dire que la préfecture a ouvert un gymnase de 110 places. Et lorsque les jeunes ont appelé le 115 ce jour-là, le 115 demande un nom, prénom, une date de naissance. Et quand ils donnaient une date de naissance de mineur, il leur était répondu que le dispositif n'était pas pour les mineurs et qu'ils ne pouvaient pas avoir de place dans ce gymnase. Du coup, nous, on a mis pas mal de pression avec des appuis politiques pour que on sorte un peu de cette absurdité où les jeunes sont toujours dans la mauvaise case, en fait, soit mineurs quand il s'agit d'avoir un droit qui est destiné aux majeurs, soit majeurs quand il s'agit d'avoir un droit qui est destiné aux mineurs. En fait, ils ont toujours droit à rien. Du coup, le lendemain, il y a un gymnase qui a pu être ouvert pour les mineurs en recours.
Et donc le plan grand froid s'est arrêté et à ce moment-là, ces jeunes n'ont plus été accueillis dans ce gymnase.
Ouais, c'est ça. Le plan grand froid, c'est les conditions météo en fait qui disent combien de temps il dure. Comme on sortait des conditions météo pour qu'il y ait un plan grand froid, la préfecture essentiellement a décidé de fermer le gymnase. En fait, la mairie apparemment était d'accord pour prolonger la mise à disposition et c'est la métropole et la préfecture qui ont refusé de continuer. Et donc les jeunes ont été obligés de sortir du gymnase et de se retrouver à nouveau à la rue. Ça, c'était le 13 janvier, je pense. Du coup, nous, au collectif, on a essayé de faire une action de mettre à l'abri les jeunes dans un bâtiment qui était vacant depuis 2 ans. On a été expulsés, il y a eu 8 soutiens du collectif en garde à vue. Et malheureusement, les jeunes sont toujours à la rue et se retrouvent au campement, quoi.
Et donc là, tous les soirs, depuis novembre, à 18h, à partir de 18h, il y en a une partie d'entre eux qui arrivent, qui viennent ici pour dormir. Là, ils sont en train de s'organiser chacun petit à petit.
Oui, voilà, il y en a qui sont déjà installés, ils consultent leur téléphone. C'est sûr que ça leur fait un répit, ouais.
Mais on peut dire qu'il fait quand même froid à l'intérieur de l'église.
Oui, je ne sais pas combien il fait, il doit faire 14-15, un truc comme ça. Il fait encore froid, mais au moins c'est au sec, c'est propre. Et c'est quand même plus chaud que dehors, quoi. Thank you.
On arrive à Alfortville, dans le Val-de-Marne, et on va assister à la nuit de la solidarité. C'est une opération qui a lieu tous les ans dans plusieurs villes de France pour recenser le nombre de sans-abri. Et on rejoint notre équipe de bénévoles qui se prépare avant le top départ.
On va se passer la soirée là de la nuit de la solidarité. Donc, comme je vous expliquais, vous êtes. Alors, Alfortville est divisé en secteurs.
Alors, Olga Esposito, je travaille au CCAS d'Alfortville, donc le Centre communal d'action sociale.
Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez expliquer ce que c'est la nuit de la solidarité, en quoi ça consiste et surtout à quoi ça sert ?
Alors, il s'agit d'une nuit où, à l'instant T, on va rencontrer les personnes qui sont à la rue, sans abri, sans aucune solution d'hébergement. On va essayer de leur proposer un questionnaire et pour pouvoir recueillir les besoins des personnes qui sont à la rue et permettre donc une étude qui est un peu plus approfondie et pouvoir donc permettre aux politiques sociales de s'adapter, de répondre un peu aux besoins qui évoluent d'année en année.
Concrètement, si on prend un exemple, ça peut servir à quoi ?
Alors, un exemple très concret, les animaux de compagnie, parce qu'effectivement, savoir si la personne est accompagnée par un animal de compagnie pourrait permettre éventuellement après d'ouvrir un peu plus de places d'hébergement avec un accueil d'animal de compagnie.
Avant que les bénévoles partent sur le terrain, vous leur donnez 2-3 conseils, 2-3 choses à savoir. Qu'est-ce qui est important à savoir quand on est bénévole comme ça sur la nuit de la solidarité ?
Alors l'information vraiment importante et qu'on souligne à chaque fois est qu'il s'agit d'une démarche qui n'est pas obligatoire. Donc c'est d'être le plus spontané possible, de rencontrer la personne, de proposer s'il veut répondre à cette étude, à ce questionnaire, mais que s'il ne souhaite pas, on n'oblige pas, on part, on remercie et donc de respecter la volonté de la personne.
Et c'est quoi le profil des bénévoles ?
Alors c'est tout type de profil, c'est vraiment des personnes soit qui sont déjà engagées d'un point de vue associatif ou des personnes qui ont très envie de découvrir des démarches de solidarité, d'aller vers les personnes à la rue.
Et ça fait combien de temps que ça a lieu à Alfortville ?
On est à la 4e édition.
C'était une information que je voulais donner. Les voitures, ouais. C'est vrai qu'il faut faire une attention particulière aux voitures.
Les camionnettes qui sont totalement fermées. Est-ce qu'on frappe quand même ou parce qu'on peut soupçonner qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur en train de dormir. Est-ce qu'on s'en occupe ou pas ?
Ouais, moi je dirais que ça dépend de l'endroit. Si vous êtes dans un endroit...
Caroline Salzard, habitante d'Alfortville, et je participe à la Nuit de la Solidarité.
Moi, je suis Bruno Dubois, donc je suis habitant aussi d'Alfortville depuis pas mal d'années. Et je participe pour la deuxième fois à la Nuit de la Solidarité avec cette équipe présente ce soir.
Donc là, vous en êtes à la phase préparatoire pour ensuite aller vraiment sur le terrain.
On vient d'avoir la formation. On est assez nombreux, je pense, en tout cas nous sur trois. On est deux à faire pour la première fois à participer à cette Nuit de la Solidarité. Donc c'était bien d'avoir cette formation, de savoir ce qu'on doit dire, pas dire, faire, pas faire, où aller ou ne pas aller. Et là, effectivement, on se prépare, on s'organise un petit peu entre nous. Et je pense que sur le terrain, ce sera plus précis ce que chacun va faire.
Donc là, il y a une petite collation et après, c'est parti.
Eh bien oui, il y a une collation.
On a une voiture pour nous approcher du site. Et alors là, ça, c'est vraiment précieux.
Ils sont une trentaine à partir sillonner les rues d'Alfortville. Par équipe de 4, ils doivent couvrir un quartier bien délimité. Direction le sud de la ville.
Alors, le sac à main, le sac à dos, la frontale, le plan surtout, qu'on ne fasse pas deux fois la même rue.
Il fait un peu froid, donc on s'habille bien, on prend toutes les affaires, y compris celles qu'on nous a données pour... les personnes qu'on pourrait trouver dans le besoin.
Donc, duvet, couverture, bonnet,
écharpe.
Là, on est où ?
On commence par les quais.
Je pense qu'on est rue des Anguilles et on va aller rejoindre les quais de Seine.
Vous n'en avez pas vu qui dormait dans les voitures ou sur les quais ?
Pourquoi vous avez voulu participer à la Nuit de la Solidarité ?
Pas bien.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que c'est important de participer à des actions civiques et sociales dans notre pays. Et encore plus aujourd'hui, vu le contexte actuel, je pense qu'on a vraiment besoin de ces moments de partage, de solidarité. et de générosité. Et je trouvais bien de pouvoir partager ce moment avec d'autres Alfortvillais et de pouvoir sillonner les quartiers d'Alfortville pour savoir aussi ce qui se passe le soir dans la ville où j'habite et puis dans des endroits où on va pas forcément à ces heures-là. Voilà. C'est important aussi, je pense, de savoir, de connaître la réalité.
Et c'est une manière aussi de participer au plaidoyer et de présenter la question des gens qui sont sans domicile, même à des gens qui sont, je dirais, pas concernés, mais qui, du coup, ont une écoute et une approche vachement intéressante parce qu'ils veulent savoir, ils veulent comprendre pourquoi on fait ça. Donc il y a une action de plaidoyer qui est positive, très positive, et qui, moi, m'intéresse en plus. Donc c'est aussi pour ça que je participe à la Nuit de la Solidarité. Là, il y a des gens, on va leur dire bonjour.
Bonsoir.
Bonjour.
On est bénévole à la Nuit de la Solidarité. C'est une opération sur Alfortville où on compte les gens qui dorment dans la rue. Et on voulait savoir si vous en connaissiez, des gens qui dorment dans la rue, sur oui. Alfortville.
Même moi, je suis dans la rue.
Hein ?
Je suis dans la rue.
Oui, oui.
Ah oui, vous dormez dans la rue.
Ouais.
Et vous n'avez pas de proposition de logement ?
Rien. J'ai pas même pas papier. J'ai rien.
Nous, notre opération, elle consiste à rencontrer les gens qui n'ont pas de domicile pour la nuit, pour cette nuit, aujourd'hui. Et si c'est le cas, on parle avec eux pour savoir pourquoi ils n'ont pas de domicile, pourquoi ils dorment dans la rue. Et si vous voulez, on peut parler ensemble. Mais c'est pas, je ne vais pas vous proposer la solution de logement. Normalement, c'est le 115. Vous connaissez ?
Mais deux fois, t'appelles et ils ne répondent pas.
Ils ne répondent pas, je sais. Mais vous avez ce qu'il faut pour téléphoner ?
Vous avez un téléphone, vous ?
J'ai le téléphone, mais deux fois, t'appelles, mais tu appelles et ils ne décrochent pas.
Et comment vous faites alors la nuit, s'il pleut, vous allez vous abriter ?
Ici,
vous pouvez vous abriter.
Ah, mais c'est ça qui est ici.
Mais je suis étonné parce que vous n'avez pas beaucoup d'habits.
Vous n'avez pas d'affaires, oui. Vous n'avez pas de sac, pas de vêtements, rien.
Et vous n'avez pas froid.
Ah, mais les froids, on a pas de froid.
On va vous donner quelque chose.
Mais
oui,
ça,
oui.
Déjà.
Vous voulez un duvet ?
Ça, c'est un duvet, ça.
Ok, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Oui. Là, je suis un petit peu touché parce qu'on vient ému parce qu'on vient de rencontrer une personne sans domicile. Et c'est toujours impressionnant de voir l'échange qu'on a avec des gens qui sont dans la rue, et vraiment dans la rue. Et là, il nous a dit depuis 4 ans en plus. Donc c'est quand même assez sidérant, quoi. On est très émus.
Bon, allez, bon courage.
Ok, merci beaucoup.
Bon
okay, merci beaucoup.
Bon courage, mettez-vous au chaud, là.
Oui, 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 c'est bon.
Prends soin de toi. Au revoir.
Voilà.
Alors d'abord, on a essayé de comprendre sa situation. Et puis, il y a plusieurs choses qu'on lui a proposées. D'abord, il était assez peu habillé pour le froid qu'il fait. Donc, on lui a donné un duvet, on lui a donné une écharpe et puis quelque chose à manger. Et puis, essayer de lui apporter aussi du support sur les démarches qu'il peut faire. On a fait deux choses différentes. Déjà, on lui a donné un flyer qui permet de se connecter sur une appli pour savoir où on peut manger. Et puis, on a récupéré ses coordonnées pour pouvoir les donner à la fin de notre parcours aux organisateurs de la Nuit de la Solidarité et faire en sorte que, on espère, ils puissent le rappeler rapidement.
Qu'est-ce que vous ressentez là ?
Et bah, beaucoup de tristesse d'abord. Et puis, un peu de colère aussi. De se dire que malheureusement il y a des gens voilà qui sont là, qui sont dans la rue et qui en plus ne se plaignent pas, et voilà, on aimerait pouvoir les aider, on aimerait pouvoir faire plus, mais bon, on doit continuer le parcours et on espère vraiment vraiment que le système va leur venir en aide.
J'ai des blessures cousues de fil d'or, du coup quand je vois l'horreur je pense à l'aurore. Je pense à la rosée, je vois des fleurs qui transpercent ton cœur. Je te souhaite le meilleur, Lilliputien dans un monde où tout me dépasse. Je fonce en vitesse lumière vers les désastres, vers les printemps.
Allez, à table. Prenez place.
Nous sommes mercredi soir dans le 15e arrondissement de Paris. Nous assistons au grand repas hebdomadaire d'une colocation un peu particulière, fondée par l'association Aux Captifs, La Libération. Elle réunit des personnes qui ont connu la rue et des étudiants ou des jeunes travailleurs. Valgiros, c'est son nom, collabore aussi avec des travailleurs sociaux et une psychologue. Nichée dans un ancien couvent, elle s'étend sur trois niveaux, deux étages d'hommes et un étage de femmes.
Je m'appelle Élise, je suis volontaire à Valgiros depuis septembre et donc j'habite au troisième étage qui est l'étage des femmes où on est 8 actuellement. Donc voilà, donc les étages c'est assez calme, surtout que là c'est le soir donc on essaie de garder un environnement qui respecte un peu la vie privée de tout le monde. Donc c'est beaucoup plus calme qu'en bas. Juste ici on a la salle commune de sanitaire, donc t'as des douches, des toilettes, des machines à laver, etc. Tout ce qu'il faut, qui est commun et donc... partager, nettoyer selon des règles de partage des tâches, etc. Et là, sur la gauche, il y a toutes les chambres les unes derrière les autres. Et au fond, il y a la cuisine de l'étage.
Il y a des photos juste là, sur le mur.
Ouais, donc à l'étage des femmes, il y a beaucoup de décorations. Un peu chacune sur sa porte, ce qui est important pour elles. Donc il y a des photos, des petites décorations faites au crochet. C'est un peu décoré. Et dans les chambres, il y en a qui ont vraiment... énormément de plantes, d'images et tout, pour se créer un petit cocon, quoi. Voilà. Bienvenue dans notre cuisine. Donc là, c'est l'espace partagé du troisième étage. Donc c'est évidemment là où on fait la cuisine, mais c'est l'endroit où on se retrouve entre nous. Et comme c'est vrai que les femmes descendent un peu moins souvent dans les endroits communs où il y a beaucoup de monde, c'est l'endroit privilégié pour qu'on se retrouve. Donc on fait des goûters, des déjeuners, des après-midi couture. Enfin, en fait, on se retrouve pas mal ici.
Voilà. Et les chambres ?
Il y a moyen que ça soit rangé, je crois que j'ai rangé. Oh, c'est tellement rangé. Voilà, c'est des petites chambres comme ça. Donc c'est pas immense, mais il y a ce qu'il faut. Il y a un petit lit, tout le monde a un bureau, une chaise, et après aménage un peu comme il veut, des bibliothèques, etc. Et chacun a également un robinet avec un miroir pour avoir un petit peu quand même de vie privée. Et il y a pas mal de rangements.
Et les sanitaires sont sur le palier.
Ouais, pour le coup, tous les sanitaires sont là-bas. Il y a deux toilettes et trois douches.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette colocation ?
Ça fait plusieurs années que je me pose pas mal de questions sur comment aider les gens qui sont à la rue ou sans domicile fixe. Et en fait, j'avais envie de m'engager sur mon temps libre. Et j'ai découvert le concept de la colocation solidaire il y a quelques années. Et il se trouve que dans ma vie en ce moment, c'était le bon moment pour moi. Et donc j'ai décidé d'emménager cette année pour comprendre le quotidien et la vie de personnes qui sont en train de se réinsérer, qui ont vécu à la rue, et pour essayer d'apporter un peu de lien, de joie, de vie dans cette maison. Et voilà.
Et cette vie quotidienne, justement, à quoi elle ressemble à la fois pour vous et à la fois pour les résidents ?
Pour nous, les volontaires, on a tous un travail et des occupations de la journée en semaine. Donc, la vie commune se passe les soirs de semaine et le week-end. On a beaucoup de moments partagés, de dîners, en fait, beaucoup de repas partagés. Et le week-end, on essaie de proposer des activités pour à la fois passer du temps tous ensemble et permettre aux résidents de voir autre chose dans leur quotidien. Donc, ça peut être... aller au cinéma, là, ce week-end, on va aller à la Cité des Sciences. Et parfois, c'est des trucs beaucoup plus simples. On prend le café juste à l'étage, on papote quand on se croise. Donc voilà. Et pour les résidents, leur vie est assez différente selon les profils. Il y en a qui ont un travail à plein temps ou à mi-temps, d'autres non. Il y a une équipe sociale qui est présente la journée, qui les voit aussi, soit pour passer du temps avec eux, soit vraiment pour des démarches administratives, etc. Donc leurs journées sont assez différentes selon les jours et selon les profils.
Est-ce que vous avez un lien avec les travailleurs sociaux ?
Oui, l'idée c'est qu'on n'a pas le même rôle du tout et c'est clairement défini. Mais l'objectif de tout le monde, c'est que la vie ici se passe bien et que les personnes puissent aller mieux, se réinsérer, etc. Donc l'objectif est commun et donc on partage parfois des informations sur ce qui va bien, ce qui ne va pas. Donc il y a à la fois un respect de la vie privée des personnes accompagnées où nous il y a plein de choses qu'on n'a pas à savoir sur leur passé. Et en même temps, une vraie idée de collaboration pour tirer tout le monde vers le haut. Donc, on leur partage les problématiques que nous, on rencontre dans la maison, aux étages et avec des personnes s'il y en a. Et eux, également, nous parlent quand ils ont besoin de notre appui sur des choses. Et le soir et le week-end, en fait, l'équipe sociale n'est plus là. Et donc, il n'y a que nous. Et il y a beaucoup de moments où eux sont pas là et peuvent pas voir si, par exemple, une personne a fait quelque chose où d'habitude ils avaient pas l'autonomie pour le faire tout seul. Et là, ça s'est super bien passé. En fait, partager les bonnes nouvelles, des choses qu'ils peuvent pas voir. Donc c'est pas on est leurs yeux en mode on espionne, mais c'est beaucoup plus de leur dire il y a eu tel développement, on a fait ça, et en fait leur partager un peu notre quotidien, parce que ça les aide aussi à mieux comprendre les personnes qui t'accompagnent.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, cette expérience ?
Une ouverture à des tonnes de gens que j'aurais pas rencontrés, beaucoup de joie aussi. Après, il y a des moments qui sont pas faciles non plus, donc je pense que ça m'apprend aussi à gérer des problèmes du quotidien et me rendre compte que, également, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Et après, il y a un aspect de... C'est les gens avec qui j'habite au quotidien. Donc, moi, au quotidien, j'oublie que c'est des gens qui ont un passé de rue. En fait, c'est juste mes colocs. Et donc, je pense que ça, c'est aussi assez incroyable parce que, en tant que société, on stigmatise les gens qui ont des passés très durs, les gens qui ont été dans la rue, etc. Et le fait d'avoir ce regard de, non, c'est juste mon ou ma coloc. Et je vais pouvoir lui parler franchement et on va pouvoir partager ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je vais lui demander son avis sur quel t-shirt je vais porter aujourd'hui. Ça casse un peu un truc qu'on a de base dans la société. Et ça, je trouve que je l'aurais eu. C'était pas possible de l'avoir autrement.
Parmi ses colocataires, ses résidents, il y a Sylvie. Elle est là depuis 3 ans. Elle a connu 20 ans de rue.
Je trouve que c'est très dur, le monde dans la rue. Dans la rue, le quotidien, c'était déjà le matin d'aller me laver. Il y a des douches municipales. Et puis voilà. Et puis le midi, si on a un peu d'argent, on mange. Sinon, on attend le soir pour les maraudes. Et après, vous commencez à connaître du monde, de toute façon. Donc, vous êtes avec les gens de la rue. Et même les gens qui ne sont pas dans la rue, qui viennent vous voir. Moi, je n'ai pas eu trop d'ennuis parce que... D'ailleurs, je n'ai pas eu d'ennuis du tout. Parce que j'étais toujours propre dans la rue. Pour dormir, je me cachais. En plus, je ronfle, donc... je ronfle, j'avais peur que l'on vienne me prendre mes papiers ou pas forcément me faire du mal, parce que moi, 1m72 ou 75... Personne n'est venu me faire du mal, mais j'avais quand même peur qu'on me vole, parce qu'on est volé. Et puis voilà, donc les 20 ans se sont écoulés comme ça, hébergé, pas hébergé, par des associations. Mais pour moi, c'était une expérience, je ne suis pas morte, parce que je suis là, une expérience très dure, c'est très dur quand même d'être dans la rue, de voir le soir... la dernière voiture qui roule, la dernière personne qui marche, la dernière lumière qui s'éteint, et puis le matin pareil, la première lumière qui s'éteint, les oiseaux, et tu sais, on est attentif à tout ce qui se passe comme ça, c'est vrai en plus.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour ici ?
Mon premier jour, j'ai dormi. En fait, je me suis allongée et j'ai dormi jusqu'au lendemain, parce que quand on est dehors, on est très fatigué. On ne peut pas dormir comme on veut, même si on s'allonge, c'est des sommeils légers, pour pas qu'on vienne nous faire du mal ou nous voler. Parce qu'on se connaît, à force de tourner. Oui, j'ai beaucoup tourné dans les rues aussi, moi, parce que je voulais voir ce qui se passait dans la nuit. Et il y a énormément de gens dehors, c'est de la folie.
À quoi ressemble votre quotidien ici à Valgiros ?
Écoutez, c'est mon quotidien ressemble à une grande liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Seulement, je suis là tous les soirs. Je dors dans mon lit tous les soirs, dans le lit tous les soirs, avec le toit que Dieu m'a donné. Voilà. Sinon, le reste du temps... En fait, moi, j'attends qu'on me donne un appartement parce que je suis retraité. Et j'ai l'impression que ça va être difficile encore de ce côté-là.
Vous touchez une retraite ?
Oui. Le minimum, le minimum vital. Je touche le minimum vital.
Hormis le fait d'avoir un toit, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être ici ?
Ça m'a apporté que je suis là dans la journée. Aujourd'hui, je ne cherche plus de travail, donc les travailleurs sociaux n'ont pas à s'occuper de moi pour ça. La seule chose dont ils m'ont aidé, c'est pour ma retraite. Parce que c'était pas, pour moi, c'est l'informatique, c'est un petit peu quand même du charabia. Et les demandes de logement, en fait. Les demandes de logement, ce sont eux qui s'en sont occupés. Voilà. Mais bon, sans résultat aujourd'hui pour le logement.
Donc vous êtes dans l'attente ?
Je suis dans l'attente d'un appartement pérenne. Voilà.
Mais en attendant, vous vous sentez bien ici ?
Oui, je me sens bien ici. Je connais tout le monde. Tout le monde me connaît. On se connaît tous, en fait. Et puis, non, mais ça va avec eux, ça va. Avec mes colocataires. C'est pas mes colocataires. Hein. Avec mes copains, mes copines. Ouais, sinon, ça va.
Bienvenue ici, juste là. Salut.
Oui. Les courses de quoi ?
Là maintenant ?
Ouais. Dans 10 minutes, il y a le.
Non, mais je vais faire vite fait, parce qu'il n'y a rien à manger en haut.
En 10 minutes ?
Ouais, je le fais.
Je m'appelle Vincent Caspar, je suis responsable du pôle hébergement aux captifs La Libération. Et je suis aussi directeur de cette colocation solidaire Valgiros.
Est-ce qu'on peut dire que le logement, c'est la toute première étape vers la réinsertion ?
D'avoir un toit et d'avoir une adresse, c'est la première des choses. Ils peuvent recevoir du courrier, ils existent quelque part. Quand ils arrivent, on fait donc un point sur leur situation, la situation administrative, savoir s'ils ont tous leurs papiers, alors qu'ils soient français ou d'origine étrangère. Pour certains, la carte nationale d'identité est périmée depuis des années. Il faut retrouver les éléments pour remettre tout ça d'aplomb. Pour les étrangers, il faut trouver les papiers qui leur permettent de se retrouver dans une situation régulière autant que possible.
Quand ils arrivent, ces résidents, ces personnes que vous accueillez, ont pour beaucoup aussi des troubles psychiques.
Oui, tout à fait. Le trouble le plus communément répandu, c'est un phénomène d'auto-exclusion. Mais les problèmes psychiques, c'est aussi la problématique des repères dans le temps, les repères dans l'espace. Et ces problématiques-là sont aussi très, très importantes. Pour certaines personnes accueillies, qui ont passé des années et des années dans la rue, se retrouver dans une chambre avec un lit, c'est quelque chose d'insupportable, dans un premier temps. C'est-à-dire que garder la porte fermée, c'est pas possible, il faut garder la porte ouverte. Dormir sur un lit, c'est pas possible, le matelas va être mis par terre. Et il faut laisser le temps au temps pour que ces personnes-là acceptent de venir s'asseoir ou s'allonger sur un matelas, sur un lit, par exemple.
Pour beaucoup, ils se réinsèrent en fait après être passés par ici.
Pour un certain nombre, oui, ils se réinsèrent à partir du moment où, pour quelques personnes, il y a vraiment une crise professionnelle, une crise familiale. Souvent les deux vont de pair, et le gouffre s'ouvre sous leurs pieds. Et il y a un moment donné où il faut juste qu'une main les rattrape au moment où ils tombent et les ramène sur la terre ferme. Bon, et il leur faut quelques mois pour se remettre, ou plusieurs années pour certains. Mais quand ce mauvais passage est derrière eux, à ce moment-là, ils peuvent repartir de leurs propres ailes, oui.
Du coup, moi, c'est Sarah, j'ai 25 ans et je suis à Valgiros depuis un an et demi. Et je suis au troisième étage, voilà. Là, on est dans la salle boisée. C'est la salle un peu plus calme, commune, qui est juste avant la salle à manger. Et y a un grand piano ici, plein de poufs si on veut s'allonger, s'asseoir, plein de chaises, des canapés, voilà.
Dans quelle situation vous étiez avant d'arriver à Valgiros ?
Du coup, avant d'arriver à Valgiros, moi, j'étais dans un foyer de jeunes filles âgées de 15 à 25 ans qui s'étaient retrouvées à la rue. Et du coup, c'est la Croix-Rouge qui nous accueillait. Et on était dans des chambres où on était entre deux au mieux et six par chambre au max.
Vous avez connu une situation de rue ?
Alors, de rue à proprement dit, non. J'ai jamais vécu à la rue, mais ça m'est arrivé quelquefois, quelques nuits, de ne pas savoir où dormir et du coup, de errer dehors. J'avais mon petit sac à dos et je marchais dans les rues de Paris. Et ce qui est bien quand t'es jeune, c'est que tu vas dans des quartiers de jeunes et t'es juste en mode, tu fais la pseudo-fête, mais sans vraiment être là pour ça de base. Et du coup, tu rencontres des gens, tu parles avec eux. Des fois, tu t'inventes une vie. Des fois, tu dis la vérité. Et voilà. Je pense que pendant des années, j'ai été dans réflexes de survie qui ont fait que même en arrivant à Valgiros, pendant, je pense, les 6 voire 8 premiers mois, j'étais dans des réflexes de survie en réfléchissant pas au lendemain, en se disant qu'à tout moment, on pouvait me mettre dehors, etc., alors qu'en vrai, pas du tout. Mais ouais, le corps, en fait, il s'habitue à la tension. Et du coup, tous les jours, tu vis dans la peur de ne pas avoir de toi, de ne pas savoir comment manger, de ne pas réfléchir au lendemain, parce que t'es dans le... Ouais, t'es dans un réflexe de survie, quoi. Donc, ouais, je l'ai vécu pendant 5-6 ans, quoi, cette boule au ventre.
Qui est partie maintenant?
Qui est presque partie, ouais.
Quand vous êtes arrivée ici, à Valgiros, quelle a été votre première impression?
Que c'était super grand. Ma première impression, franchement, en arrivant à Valgiros, c'est que c'est le labyrinthe. Il y a plein d'étages, plein de portes, plein de gens. Du coup, première impression, waouh, comment je vais retenir tous ces espaces-là? Et après, avoir sa propre chambre, c'est un miracle. C'est vraiment trop bien. Donc, j'étais apeurée, puis soulagée.
Et vous jouez de la musique?
Et du coup, ouais, je joue de la musique, justement. C'est un peu le truc qui m'a toujours aidée, sauvée. Ça fait du bien. Moi, en tout cas, c'est mon rapport à... Ok, je me sens pas bien, je vais faire du piano, je vais chanter, je vais faire du ukulélé, voilà quoi.
Est-ce que vous voulez nous jouer un morceau?
Ouais, on peut, hein. Un peu grave.
Allez.
Quand on fait de la musique à plusieurs, je fais souvent genre tout ce qui va être autour du boogie et tout. Comme ça, les gens, ils peuvent improviser là-dessus.
De la rue au logement, une chaîne de solidarité, un reportage de Flore Caron avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le directeur général de l'association Aurore, Florian Guyot, est l'invité de ce grand reportage. Alors, il y a de plus en plus de personnes sans-abri en France. Il y a aussi bien des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance que des personnes qui ont perdu pied à un moment donné. On a aussi entendu de jeunes migrants, il y a donc des étrangers. Les profils évoluent?
Les profils évoluent avec l'évolution de la société et de la pauvreté, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas un profil. Il y a 1000 façons de tomber à la rue, et il y a 1000 façons de briser une vie. Toutes les vies que nous avons entendues dans ce reportage magnifique, c'est des vies qui sont très différentes les unes des autres, des jeunes migrants, une jeune fille qui erre dans la rue le soir, une personne qui a passé 20 ans à la rue. Tout ça, c'est des histoires de vie qui sont toutes très différentes les unes des autres. Maintenant, si on regarde les statistiques, c'est vrai que il y a deux causes principales à la pauvreté. Le fait d'être jeune, le fait d'être une femme. Être jeune parce que, de façon générale, on a peu de ressources et c'est compliqué. Le fait d'être une femme parce que beaucoup de familles monoparentales sont des familles les plus pauvres et la personne à la tête de cette famille, ce sont des femmes. Ça, c'est les deux grandes causes de la pauvreté aujourd'hui en France. Mais aussi, nous avons une évolution d'un certain nombre de phénomènes. L'arrivée de jeunes migrants, par exemple, les mineurs non accompagnés, sont aujourd'hui un phénomène qui crée des campements dans de nombreuses villes. Et de façon générale, les étrangers en France sont des personnes qui n'ont pas d'autre solution que vivre à la rue, parce qu'elles n'ont ni le droit d'accéder à un logement, ni le droit de travailler. Et donc, quand on est dans cette situation-là, la rue est le seul endroit où vous avez le droit d'être.
Là, on peut se poser la question d'ailleurs d'un dysfonctionnement, d'une sorte de d'aberration quelque part, puisqu'il y a des... à la fois, on ne les renvoie pas ailleurs, et en même temps, on ne leur donne aucun moyen de subsistance.
Vous parlez des étrangers ou oui. De façon... Oui, et c'est le drame de la société actuelle, c'est-à-dire que on a tendance, c'est ce que j'explique dans le livre, à rendre les personnes responsables de leur propre situation et à vouloir les invisibiliser, c'est-à-dire que on crée des campements tels que celui que vous avez filmé ou dans lequel le reportage a eu lieu, qui sont des campements indignes. On a parlé ici de rats, on a parlé d'un feu qui est potentiellement dangereux, on a parlé de boue, et ces campements font extrêmement peur. Et quand on a peur de l'autre, on ne veut pas s'y identifier, donc on le rejette. Et c'est ça qui crée de l'exclusion et qui font que ces personnes n'ont pas d'autre choix que de se repousser de plus en plus loin dans les marges de la société, dans des campements insalubres, et ont de plus en plus de mal à s'intégrer, d'abord parce que la société les rejette. Et ensuite, elles ont du mal à s'intégrer parce que, administrativement, elles ne peuvent pas. Mais je crois qu'il faut vraiment voir les deux phénomènes. Il y a, un, la difficulté de les personnes de travailler, d'accéder au logement parce qu'elles ne peuvent pas. Mais ça, c'est un phénomène. Le vrai phénomène, c'est le rejet. Le vrai phénomène, c'est la peur de l'autre, c'est qu'on ne veut pas les voir et que finalement, ces personnes sont repoussées aux marges de la société.
Peur et rejet qui sont injustifiés ?
Peur et rejet qui fabrique en tout cas une certaine défiance, qui fabrique des cercles vicieux dans lesquels on ne se parle plus, on ne se comprend plus, et peur et rejet qui est injustifié, oui, parce que derrière on met des représentations sur les personnes, ces représentations ne tiennent pas compte de l'ensemble des parcours et des réalités de vie de ces personnes. Les jeunes qui étaient dans le reportage du campement de Lyon sont des jeunes qui ont traversé peut-être 5, 6, 7 pays, qui ont traversé la mer pour venir ici, qui ont des parcours où ils ont subi des situations de torture. Et donc on ne peut pas simplement balayer d'un revers de main la difficulté de ce parcours et dire que si aujourd'hui ils ont des difficultés ou s'ils se comportent pas tout à fait comme on attendrait que qu'un jeune se comporte, c'est de leur faute. Il faut aussi tenir compte de tout ce bagage qu'ils ont avec eux. Un enfant qui a vécu dans des hôtels sociaux toute sa vie, on ne peut pas s'attendre de lui qu'il se comporte comme un autre enfant. Et donc, ce regard, cette peur, elle est injustifiée dans la mesure où elle ignore toute la spécificité des parcours de vie qui sont tous très durs, très différents. J'ai rencontré une femme, je m'arrêterai là, une femme qui a un parcours migratoire très dur, et qui finissait son parcours qu'elle me racontait en disant « Aucune femme au monde n'a été violée plus que moi ». Cette phrase, elle est terrifiante, mais elle signifie ce que c'est que la réalité de la vie à la rue. Alors la personne ici qui était dans le reportage disait « Il ne m'est rien arrivé parce que je ronflais, etc. » Mais la réalité de la vie à la rue, et en particulier quand on est une femme, c'est que vous êtes violée quasiment continuellement. Et donc, on ne peut pas complètement ignorer la réalité de la difficulté de ces parcours et projeter ce que devrait être, ce qu'on devrait faire dans une société comme la nôtre.
Pourtant, il y a bel et bien du rejet. Et alors, dans son dernier rapport sur le mal-logement, la Fondation pour le logement dit que la situation se dégrade considérablement. Et elle dénonce un certain état d'esprit qui favorise, selon elle, l'exclusion au lieu de la prévenir. Je pense aux coupures d'électricité et de gaz, de plus en plus fréquentes en cas de non-paiement, ou aux expulsions locatives avec le concours de la force publique, avec des personnes malades, âgées ou avec enfants auxquels on ne propose pas de solution alternative. Vous partagez l'indignation de la Fondation à ce sujet ?
Je le partage, et je le partage d'autant plus que on ne s'interroge pas sur les causes de tout cela. Il y a un précédent rapport de la Fondation pour le mal-logement qui date de quelques années, qui a été fait en lien avec une association européenne et qui étudiait la différence entre les pays européens du nombre d'expulsions locatives. La France est l'un des pays européens qui expulse le plus. Je pourrais pas vous dire le chiffre de tête, mais en proportion, c'est l'un des pays qui expulse le plus. Or, quand on a quand on expulse, c'est qu'il y a un problème d'impayé, globalement. Et ce problème d'impayé, il faut le voir comme un symptôme de quelque chose. Ça peut être un échec professionnel, ça peut être un drame familial, ça peut être un problème psychique, un problème de santé, un problème de handicap, un problème de scolarité avec un enfant qu'on n'arrive pas à gérer. Ça peut être plein de choses. Mais si on ne s'attaque pas à ce problème-là, donc si on ne fait pas de la prévention, alors on continuera d'expulser. Et donc ça m'indigne dans le sens où on continue de fabriquer de la précarité en expulsant les gens à la rue, et ensuite d'avoir le besoin d'un 115 qui est sans cesse surchargé pour trouver des solutions d'hébergement. Mais le levier de la prévention, lui, est un levier qui est encore très peu mobilisé dans les politiques publiques. Et ça, je trouve que c'est grave.
Mais alors, quelle prévention exactement ? Parce qu'il me semble que les travailleurs sociaux sont assez submergés.
Les travailleurs sociaux sont submergés, mais c'est pas une fatalité. La prévention, comme je le disais, en matière de soins, en matière de santé psychique, on le sait, la santé mentale de la population est quelque chose qui est un signal d'alarme. C'est souvent déclaré comme la grande cause nationale. Bon, ça reste la grande cause nationale d'année en année, donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument agir. Et puis, il y a de la prévention auprès des jeunes. On fabrique de la précarité avec un manque de coordination patent entre nos dispositifs. Et le principal exemple, c'est celui de l'aide sociale à l'enfance. Vous le savez, des jeunes qui sont placés vivent en foyer jusqu'à l'âge de 18 ans parce qu'ils sont pris en charge par les départements. Une fois qu'ils ont 18 ans, ils deviennent adultes. Et là, la prise en charge des adultes, c'est l'État. Et quand on passe de l'un à l'autre, eh ben, on n'a quasiment pas le choix que de passer par la case de la rue.
Oui, il y a des ruptures de parcours et ça, c'est un très gros problème.
Ces ruptures de parcours sont exactement ce que je décris comme un problème de coordination entre les politiques publiques et on ne peut pas rendre les gens responsables de ce problème de coordination. C'est en ça que je dis qu'il faut arrêter de responsabiliser les personnes sur leur situation de pauvreté et il faut s'interroger sur en quoi est-ce que c'est notre société qui le fabrique, par exemple par des problèmes de coordination simple entre des départements et l'État.
Alors, la difficulté, c'est aujourd'hui le manque d'offres d'hébergement, de logement social, qui entraîne d'ailleurs une mise en concurrence entre les personnes précaires. C'est une violence supplémentaire.
C'est une violence supplémentaire. La solution, évidemment, consiste à créer le nombre de places qu'il faut pour pouvoir héberger les personnes et puis surtout à construire des logements. Nous savons qu'il y a un peu plus, je crois, 2 millions de personnes qui attendent un logement social et la construction de logements sociaux est en panne. Par ailleurs, on a des grands logements, là où probablement avec des phénomènes de cohabitation, il faudrait plutôt des petits logements. Donc, il faut arriver à transformer le parc et tout ça, ce sont des problématiques de politique publique qu'il faut absolument prendre à bras le corps. Ça n'est pas insoluble, c'est ça qu'il faut se dire. La DIAL, qui est l'administration qui gère l'hébergement d'urgence en France, a mis en place une politique qui s'appelle le logement d'abord et qui vise à insérer dans le logement des personnes qui sont à la rue. Le dernier bilan de mémoire, il date de 2024 et il indiquait que 12 000 personnes qui étaient à la rue ont pu accéder à un logement. C'est 50% de plus qu'il y a 5 ans. Et donc on voit que la dynamique, elle est positive et qu'avec des politiques publiques volontaristes, on arrive à insérer les personnes dans le logement. Donc c'est possible, mais la question c'est comment est-ce qu'on arrive à construire des logements et puis à anticiper. Il faut que les villes anticipent le fait qu'il y aura des personnes qui vivent aux marges de la société et donc d'avoir les équipements publics qui puissent les prendre en charge. Il faut anticiper.
Alors sur cette logique du logement d'abord, on peut prendre un exemple, l'intermédiation locative, qui est un dispositif où vous pouvez peut-être l'expliquer mieux que moi d'ailleurs.
L'intermédiation locative, c'est un joli dispositif de solidarité où des particuliers qui possèdent un appartement, au lieu de directement mettre cet appartement sur le marché de la location, le loue à une association et cette association ensuite va le louer à une personne en difficulté et faire l'accompagnement social de cette personne.
Donc ça, par exemple, vous le faites à l'association Aurore.
Tout à fait. Nous gérons ce type de dispositifs qui sont parmi l'une des principales politiques publiques du logement d'abord en France.
Ce qui est sécurisant et qui permet d'ouvrir des
exactement. C'est sécurisant pour le propriétaire parce que son locataire, en réalité, c'est une association qui a une surface plus large et qui est en lien avec la puissance publique. Et puis, à l'intérieur, il y a un ménage qui, lui, bénéficie d'un accompagnement social.
Il y a d'autres dispositifs comme ça qui sont vertueux, qui ont fait leurs preuves?
Il y a beaucoup de dispositifs qui ont fait leur preuve. Le premier dispositif, ce qu'on appelle le logement d'abord, c'est un dispositif qui s'appelle Un chez soi d'abord, qui vient des États-Unis à l'origine. C'est ce qu'on appelle le Housing First pour les Américains et qui vise à héberger dans un vrai logement des personnes qui étaient à la rue et avec des problématiques de santé mentale. Alors on pourrait se dire, à la rue, santé mentale, est-ce que vraiment ces personnes vont avoir l'autonomie pour tenir dans un logement? Et vous voyez que quand on dit ça, on a des préjugés sur les personnes et en réalité, 85% des personnes intégrés dans le un chez soi d'abord, sont toujours dans leur logement et ont réussi à tenir dans ce logement-là. Il y a d'autres exemples, la création de pensions de famille, qui sont des petits collectifs de logements sociaux, généralement une trentaine de logements sociaux, avec des salles collectives et avec une cuisine partagée très proche de la colocation solidaire que vous avez interrogée, mais sous la forme de petits logements. Ça, c'est des dispositifs de logement d'abord qui permettent de sortir les gens de la rue de manière efficace et en plus avec cette dimension collective qui est très importante pour arriver à recréer du lien social. Tout ça, ça marche.
Flore Caron.
Je reviens sur une autre initiative, donc la Nuit de la Solidarité.
Bien sûr.
Voilà, qu'on évoque dans le reportage. Et la personne du CCAS d'Alfortville qu'on entend, elle dit bien que le but, c'est d'essayer d'adapter les politiques sociales. Est-ce que ces recensements, ces Nuits de la Solidarité, on sait si elles sont suivies d'actions concrètes, au moins au niveau des villes?
Ces Nuits de la Solidarité, d'abord, elles sont très importantes. Il faut absolument qu'elles continuent, il faut qu'elles se généralisent. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas construire une politique publique qui prend en charge des personnes à la rue si on ne sait même pas dire combien est-ce qu'il y en a. Ça paraît bête, mais le dernier recensement en France des sans-abri, fait par l'INSEE, donc je dirais officiel, il date de 2012. Le nouveau, il vient d'être refait, les résultats ne sont pas publiés. Mais en gros, on a 15 ans d'une étude à une autre. Si on ne sait pas si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, si ce sont des jeunes, si ce sont des personnes plus âgées, etc., comment voulez-vous qu'on construise des dispositifs adaptés ? Et donc, il nous faut ce type de comptage, et les Nuits de la Solidarité sont essentielles pour le faire. La première Nuit de la Solidarité, elle a démarré à Paris, maintenant il y a 5 ou 6 ans, et ça, elle a permis, par exemple, de se figurer le nombre de femmes qui étaient à la rue, entre 15 et 20%. Et donc, à l'issue de cela, un certain nombre de centres d'hébergement dédiés aux femmes ont pu être ouverts dans les années qui ont suivi. C'est un exemple. Le reportage mentionnait la question des animaux. Là aussi, de plus en plus, on essaye de proposer des solutions pour que les animaux puissent être pris en charge. Maintenant, est-ce que ça répond à tout ? Bien sûr que non, mais ça permet au moins de mettre en évidence le sujet une fois par an, de compter, de donner des chiffres, de donner une réalité. Cette réalité, elle est objective et plus personne ne peut dire qu'on ne sait pas.
Et vous aimeriez qu'on mette en place un observatoire du sans-abrisme ?
Je pense que ça fait partie des propositions numéro un, en tout cas c'est celle que je liste dans mon livre et que nous défendons au sein de l'association Aurore. Encore une fois, on ne peut pas construire des bonnes politiques sur ce qu'on ne connaît pas. Et par ailleurs, les pays européens qui ont le mieux lutté contre le sans-abrisme, notamment la Finlande, mais on pourrait parler aussi du Danemark ou de l'Irlande, la première chose qu'ils ont fait, c'est de compter.
Et vous voulez aussi créer un droit à l'accompagnement opposable ?
Mais regardez le reportage qui vient d'être fait. La dame qui était intégrée dans la colocation dit « on m'aide pour l'informatique parce que l'informatique c'est du charabia pour moi ». Des situations comme cette dame-là, c'est pas forcément les personnes à la rue qui les vivent au quotidien et qui sont confrontées à de grandes difficultés pour s'insérer dans le monde d'aujourd'hui. Ces difficultés, elles sont effectivement avec des démarches qui sont informatiques et qui sont de plus en plus compliquées, mais il y a bien d'autres choses qui rendent la vie compliquée aux gens, qui fait qu'ils se dégradent, par exemple l'accès à la santé. J'ai rencontré dans des centres que je visite des personnes accéder trouver un rendez-vous. C'est compliqué parce qu'il y a des déserts médicaux, mais quand on a le rendez-vous, derrière, il faut faire des ordonnances, il faut aller à la pharmacie, puis il faut faire un examen, puis ensuite revoir le médecin. Tout ça est compliqué. Et pour des personnes qui ont un manque d'autonomie ou qui ont des difficultés, c'est tellement compliqué que leur réaction, c'est de ne pas faire et donc de renoncer à des soins qui pourtant sont importants. Donc elles se dégradent, donc leur situation professionnelle peut-être est moins facile et petit à petit, elles finissent peut-être à la rue. Là, c'est l'exemple extrême. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, accompagner les personnes, là aussi, c'est de la prévention.
En tout cas, vous plaidez donc pour la fraternité, c'est le mot fort de votre livre.
C'est un mot essentiel. La fraternité, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des individus juxtaposés, mais qu'on est une société. C'est un mot qui, malheureusement, a tendance à être oublié.
Merci Florian Guyot. De la rue au logement, une chaîne de solidarité. Le grand reportage de cette semaine était signé Flore Caron. Réalisation Annie Brault, à la technique Jean-Guy Lamège, au web Caroline Beneteau, documentation Corinne Chauvel et Véronique Le Faller. N'hésitez pas à partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous pour cela sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.